Le brahmane, sa femme et l'infirme. Il y avait dans un endroit un brahmane. Il avait une femme qui lui était plus chère que la vie. Cette femme ne cessait de se quereller tous les jours avec la famille de son mari. Le brahmane, qui ne pouvait supporter une querelle, quitta sa famille par tendresse pour sa femme et alla avec la brahmanie dans un autre pays éloigné. Au milieu d'une grande forêt, la brahmanie lui dit « Fils d'un vénérable, la soif me tourmente. Cherche donc de l'eau quelque part. » Dès qu'elle eut dit ces mots, il alla chercher de l'eau, et quand il revint, il la vit morte. Pendant que, par excessive affection, il s'affligeait et se lamentait, il entendit une voix dans l'air. « Eh bien, brahmane, si tu donnes la moitié de ta vie, ta brahmanie vivra. » Après avoir entendu cela, le brahmane se purifia et donna avec trois mots la moitié de sa vie. Et au moment où il prononçait ces mots, la brahmanie redevint vivante. Alors ils burent de l'eau, mangèrent des fruits de la forêt et se mirent en marche. Puis, en poursuivant leur route, ils arrivèrent à l'entrée d'une ville, dans un jardin de fleurs. Et le brahmane dit à sa femme « Ma chère, tu resteras ici jusqu'à ce que je revienne avec de quoi manger. » Après qu'il eut dit cela, il partit. Or, dans ce jardin de fleurs, un infirme tournait la roue d'un puits et chantait une chanson avec une voix divine.
এবার তোরে চিনেছি মা, এবার তোরে চিনেছি মা।
Quand la brahmanie entendit ce chant, elle fut frappée par le dieu aux flèches de fleurs. Elle s'approcha de l'infirme et lui dit « Mon cher, si tu ne m'aimes pas, tu seras coupable envers moi du meurtre d'une femme. » L'infirme répondit « Que feras-tu de moi, dévoré par la maladie ?»« À quoi bon ces paroles ? » dit-elle. « Il faut nécessairement que j'aie commerce avec toi. » Lorsqu'il eut entendu cela, il fit ainsi. Aussitôt après avoir fait l'amour, elle dit « À partir de maintenant, je me suis donné à toi pour la vie. Sachant cela, viens aussi avec nous. »
Soit, dit-il.
Puis le brahmane revint avec de la nourriture et se mit à manger avec sa femme. Cet infirme a faim, dit-elle. Donne-lui donc aussi une petite bouchée. Après que cela fut fait, la brahmanie dit Brahmane, quand tu vas sans compagnon dans un autre village, alors moi non plus je n'ai pas de compagnon pour converser. Prenons donc cet infirme et allons-nous-en. » « Je n'ai pas, répondit le brahmane, la force de me porter moi-même, ni à plus forte raison cet infirme. » « Je le porterai dans ma corbeille, dit-elle. » Or le brahmane, trompé par ses feintes paroles, y consentit. Après que cela fut fait, un jour que le brahmane se reposait auprès d'un puits, sa femme, attachée à l'homme infirme, le poussa et le fit tomber dans le puits. Elle prit l'infirme et entra dans une ville. Là, les gens du roi, qui couraient de tous côtés pour empêcher la fraude des droits de péage, virent la corbeille qu'elle avait sur sa tête. Ils la lui arrachèrent de force et la portèrent devant le roi. Lorsque le roi l'ouvrit, il vit l'infirme. Puis la brahmanie arriva là derrière les gens du roi en se lamentant. Le roi lui demanda ce que cela signifiait. C'est, dit-elle, mon mari, affligé de maladie et persécuté par ses nombreux héritiers. Le cœur tourmenté d'affection, je l'ai mis sur ma tête et l'ai apporté près de vous. Quand le roi eut entendu cela, il dit « Brahmani, tu es ma sœur. Prends deux villages, jouis des plaisirs avec ton mari et vis heureuse. » Mais le Brahman, par effet de la volonté du destin, fut retiré du puits par un brave homme, et courant de côté et d'autre, il vint dans cette même ville. Sa méchante femme l'aperçut et le dénonça au roi. « Roi, voici un ennemi de mon mari qui est venu !» Le roi ordonna de le mettre à mort. « Majesté, dit le brahman, elle a reçu quelque chose qui m'appartient. Si vous aimez la justice, faites-le-moi rendre. » « Ma chère, dit le roi, rends tout ce que tu as reçu et qui lui appartient. »« Majesté, répondit-elle, je n'ai rien reçu. » Le brahman dit, « Rends la moitié de ma vie que je t'ai donnée avec trois mots. » Alors, par crainte du roi, elle dit, « Je rends la vie qui m'a été donnée avec trois mots. » Et à l'instant même, elle mourut. Ensuite, le roi dit avec étonnement, « Qu'est-ce ?» Le brahman lui raconta toute l'histoire précédente. « Voilà pourquoi je dis, « Celle pour qui j'ai quitté ma famille et sacrifié la moitié de ma vie m'abandonne, l'insensible. Quel homme pourrait se fier aux femmes ?» Le singe ajouta, « C'est avec raison aussi que l'on raconte cette histoire. Que ne donnerait pas, que ne ferait pas un homme sollicité par les femmes ? Là où ceux qui ne sont pas des chevaux hennissent, on se rase la tête sans que ce soit le jour.
Comment cela ? Dit le crocodile.
Le singe raconta. Le roi, le ministre et leurs femmes. Il était un maître de la terre qui a pour limite la mer, un roi nommé Nanda, fameux par sa puissance et sa bravoure, dont le marchepied était natté avec la multitude des rayons des diadèmes d'une foule de nombreux rois, et dont la voix était pure comme les rayons de la lune d'automne. Il avait un ministre nommé Vararuchi, qui avait étudié toutes les écritures et connaissait l'essence de toutes choses. La femme de ce ministre était en colère contre son mari à cause d'une querelle d'amour, et quoique celui-ci cherchât de bien des façons à contenter cette femme très chérie, elle ne s'apaisait pas. Or le mari dit, « Ma chère, dis la manière dont je pourrais te rendre contente, je le ferai assurément. » Puis elle répondit avec assez de peine, « Si tu te rases la tête et que tu tombes à mes pieds, alors je te regarderai d'un œil favorable. » Après que cela fut fait, elle fut apaisée. La femme de Nanda, également en colère, ne s'apaisait pas non plus, bien que celui-ci cherchât à la contenter. « Ma chère, dit-il, sans toi, je ne puis vivre même une heure. Je tombe à tes pieds et j'implore ta bonté. » Elle dit, « Si tu te laisses mettre un mort dans la bouche, que je monte sur ton dos et te fasse courir, et si, pendant que je te ferai courir, tu hennis comme un cheval, alors je serai apaisée. » Cela fut fait. Puis au matin, comme le roi siégeait dans l'assemblée, Vararuchi arriva, et le roi, quand il le vit, lui demanda, « Hé, Vararuchi,
Pourquoi ta tête est-elle rasée sans que ce soit le jour ?
Le ministre dit : Que ne donnerait pas, que ne ferait pas un homme sollicité par les femmes, là où ceux qui ne sont pas des chevaux hennissent, on se rase la tête sans que ce soit le jour ? Ainsi, méchant crocodile, toi aussi, comme Nanda et Vararuchi, tu es l'esclave d'une femme. C'est pour cela que, conduit par cette excellente femme, tu as entrepris la poursuite d'un moyen de me faire mourir. Mais par la faute de tes paroles, cette entreprise a été dévoilée. Et certes, on dit ceci avec raison. Les perroquets et les sarikas se font prendre par la faute de leur bec. Les grues ne s'y font pas prendre. Le silence est le moyen d'accomplir toute chose. Et ainsi, quoique gardé avec le plus grand secret et montrant un corps effrayant, un âne vêtu d'une peau de tigre fut tué pour avoir poussé un cri.
« Comment cela ? » dit le crocodile.
Le singe raconta. L'âne vêtu de la peau d'un tigre. Dans un endroit habitait un teinturier nommé Sudapata. Il avait un âne qui, par manque d'herbe, était devenu très maigre. Or, le teinturier, en se promenant dans la forêt, vit un tigre mort, et il pensa : Ah, c'est une bonne chose qui arrive ! Avec cette peau de tigre, je couvrirai mon âne, et je le lâcherai la nuit dans les champs d'orge, afin que les gardes des champs qui demeurent dans le voisinage le prennent pour un tigre et ne le chassent pas. Après que cela fut fait, l'âne mangea de l'orge comme il voulut. Le matin, le teinturier le ramenait à sa demeure. De cette façon, avec le temps, l'âne devint gras, et on avait de la peine à le conduire à l'endroit où on l'attachait. Mais un jour qu'il était en route, il entendit de loin le cri d'une ânesse. Pour avoir seulement entendu ce cri, il se mit lui-même à crier. Puis les gardes des champs reconnurent que c'était un âne vêtu d'une peau de tigre et le tuèrent à coups de bâton, de flèches et de pierres. Voilà pourquoi je dis, quoique gardé avec le plus grand secret et montrant un corps effrayant, un âne vêtu d'une peau de tigre fut tué pour avoir poussé un cri. Or, pendant que le crocodile parlait ainsi avec le singe, un animal aquatique vint et lui dit : Hé, crocodile, comme tu tardais à revenir, ta femme qui s'était mise à jeûner est morte, accablée d'amour. Après avoir entendu ces paroles semblables à un coup de foudre, le crocodile eut le cœur très troublé et se lamenta ainsi : Ah, que m'est-il arrivé là, malheureux que je suis ! Et l'on dit : Celui qui n'a pas dans sa maison une mère et une femme aimables doit aller dans la forêt. Sa maison est comme une forêt. Ainsi donc, ami, pardonne la faute que j'ai commise envers toi. Maintenant, puisque je suis séparé de ma femme, je vais entrer dans le feu. Lorsque le singe entendit cela, il dit en riant : Hé, je te connaissais déjà. Je savais que tu étais l'esclave d'une femme et que tu étais maîtrisé par une femme. À présent, j'en ai la certitude. Ainsi, imbécile, alors même qu'un bonheur t'arrive, tu tombes dans l'affliction. Quand une pareille femme est morte, il convient de faire une fête. Car on dit, une femme d'un caractère méchant et toujours querelleuse doit être reconnue par les sages pour une horrible rakshasi sous la forme d'une femme. Par conséquent, que celui qui désire son propre bonheur mette tous ses soins à fuir jusqu'au nom même de toutes les femmes ici-bas. Ce qu'elles ont en dedans n'est pas sur leur langue. Ce qui est sur leur langue ne vient pas au dehors. Ce qui est au dehors, elles ne le font pas. Les femmes ont une manière d'agir variée. Quels sont ceux qui ne périssent pas quand par ignorance ils s'approchent d'une belle aux fortes hanches, comme les sauterelles de la lumière d'une lampe? En effet, elles sont tout poison à l'intérieur, et à l'extérieur, elles sont charmantes. Les femmes, par leur nature, ressemblent aux fruits du Gundia. On a beau les frapper avec le bâton, les couper en morceaux avec les épées, on ne soumet les femmes ni par les présents ni par l'amitié. Arrêtons-nous cependant. Qu'est-il besoin de citer ici une autre méchanceté des femmes? Elles tuent par colère le fils même qu'elles ont porté dans leur sein. Un sot verrait la bonté de l'affection dans une petite fille méchante, une grande douceur dans celle qui est cruelle, et le sentiment dans celle qui n'a pas de sentiment.
Eh, ami, dit le crocodile, c'est vrai, mais que dois-je faire?
Voilà deux maux qui m'arrivent. L'un est la ruine de ma maison, l'autre la séparation de cœur d'avec un ami comme toi. Et certes, cela est ainsi par la volonté du destin. Car on dit, quel que soit mon savoir, tu en possèdes deux fois autant. Tu n'as plus ni galant ni mari. Pourquoi regardes-tu fixement, femme nue?
Comment cela? Demanda le singe.
Le crocodile dit, la femme et le chacal. Dans un endroit habitait un couple de laboureurs, et la femme du laboureur, à cause de la vieillesse de son mari, pensait toujours à d'autres et ne prenait nullement de stabilité à la maison. Elle ne faisait que courir çà et là cherchant d'autres hommes. Or un fripon, voleur de la richesse d'autrui, l'aperçut et lui dit dans un lieu solitaire.
« Fortuné, ma femme est morte, et pour t'avoir vu, je suis tourmenté par Kama. Donne-moi donc le présent d'amour. »
Puis elle répondit,
« Ô fortuné, si c'est ainsi, mon mari a beaucoup d'argent, et par suite de vieillesse, il ne peut pas même faire un pas. En conséquence, je prendrai son argent et je viendrai pour aller ailleurs avec toi et jouir comme je voudrais du plaisir de l'amour. »
« Cela me plaît aussi, dit le fripon. Ainsi, au point du jour, tu viendras vite en ce lieu, afin que nous allions dans une très belle ville et qu'avec toi le monde des vivants devienne profitable pour moi. »
Elle promit que oui et alla à sa maison avec un visage riant. Dans la nuit, pendant que son mari dormait, elle prit tout l'argent, et au point du jour, elle courut vers l'endroit désigné par le fripon. Celui-ci la fit aller devant et se mit promptement en route vers le sud. Pendant qu'ils marchaient ainsi, ils rencontrèrent à une distance de 2 yodhyanas une rivière devant eux. Quand le fripon la vit, il pensa, que ferais-je de cette femme qui a atteint la limite de la jeunesse? Et peut-être quelqu'un viendra-t-il à sa poursuite. Alors il y aurait pour moi grand préjudice. Je prendrai donc seulement son argent et je m'en irai. Après avoir pris cette résolution, il lui dit,
ma chère, cette grande rivière est très difficile à traverser. En conséquence, je vais porter le bagage sur l'autre rive et je reviens. Ensuite, je te ferai monter seul sur mon dos et je te passerai aisément. »
Elle répondit,
« Fortuné, fais ainsi. »
Lorsqu'elle eut dit ces mots, elle lui remit tout l'argent. Puis il dit,
« Ma chère, donne-moi aussi ton vêtement de dessous et ton manteau, afin que tu ailles sans crainte dans l'eau. »
Après que cela fut fait, le fripon prit l'argent et les deux vêtements et s'en alla dans la contrée où il voulait aller. Tandis que la femme, les deux mains posées autour du cou et pleine d'anxiété, était assise dans un endroit d'une île de la rivière, pendant ce temps, vint là un chacal femelle, tenant un morceau de viande dans sa gueule, et comme après être arrivé, il regardait, un gros poisson qui était sorti de l'eau était dehors sur le bord de la rivière. Quand le chacal le vit, il lâcha le morceau de viande et courut vers le poisson. Cependant, un vautour descendit des airs, prit le morceau de viande et revola dans l'espace. Le poisson, lorsqu'il aperçut le chacal, rentra dans la rivière. Puis, comme le chacal qui s'était donné une peine inutile regardait le vautour, cette femme nue lui dit en souriant « La viande a été emportée par le vautour et le poisson est allé dans l'eau. Chacal qui a perdu poisson et viande, pourquoi regardes-tu fixement ?» Quand le chacal entendit cela et vit qu'elle aussi avait perdu mari, argent et galant, il lui dit avec moquerie « Quel que soit mon savoir, tu en possèdes deux fois autant. Tu n'as plus ni galant ni mari. Pourquoi regardes-tu fixement, femme nue ?» Pendant que le crocodile racontait ainsi, un autre animal aquatique vint encore et lui dit « Ah ! Ta maison aussi a été prise par un autre grand crocodile !» Lorsqu'il entendit cela, il eut le cœur très affligé, et pensant à un moyen de faire sortir ce crocodile de la maison, il dit « Ah ! Voyez comme je suis frappé par le destin ! Mon ami est devenu ennemi ! De plus, ma femme est morte et ma maison est envahie par un autre. Qu'arrivera-t-il encore aujourd'hui ? » Et certes, on dit ceci avec raison. Sur celui qui est blessé, les coups tombent sans cesse. Quand la nourriture manque, l'ardeur d'estomac augmente. Dans le malheur, les inimitiés naissent. Tout cela vient aux hommes lorsque le destin est contraire. Que dois-je donc faire? Dois-je combattre avec ce crocodile ou le faire sortir de la maison en lui adressant des remontrances avec douceur ou avoir recours à la discorde ou au présent? Mais je vais demander conseil à cet ami singe. Et l'on dit à celui qui agit après avoir demandé conseil à des maîtres bons pour lui et dignes d'être consultés, il ne survient aucun obstacle dans rien de ce qu'il fait. Après avoir ainsi réfléchi, il demanda de nouveau au singe qui était monté sur l'arbre Jumbo. « Eh, ami, vois ma malheureuse destinée. Maintenant, ma maison même est fermée par un crocodile plus fort que moi. Aussi, je viens te consulter. Dis-moi ce que je dois faire. » Entre la conciliation et les autres moyens, lequel trouve ici sa place ?
Hé ! Ingrat méchant, répondit le singe, pourquoi me suis-tu encore, bien que je te l'aie défendu ? Un sot comme toi, je ne donnerais pas même un conseil.
Lorsque le crocodile eut entendu cela, il dit :
Hé, ami, tout coupable que je suis, rappelle-toi notre amitié d'autrefois et donne-moi un bon conseil.
Je ne te dirai rien, répondit le singe.
Sur l'ordre de ta femme, tu m'as emmené pour me jeter dans la mer. Ce n'était pas bien. Quoiqu'une femme soit plus chère que le monde entier, cependant, on ne jette pas des amis et des parents dans la mer sur l'ordre de sa femme. Aussi, imbécile, j'ai déjà prédit que ta sottise causerait ta perte. Car celui qui par orgueil ne suit pas le conseil donné par des gens de bien trouve promptement sa perte, comme le chameau à la cloche.
« Comment cela ? » dit le crocodile.
Le singe dit « Le chameau dévoré par un lion. » Dans un endroit habitait un charron nommé Udajalaka. Il était très affligé de pauvreté.
et il pensa « Ah, fille de cette pauvreté dans notre maison, chacun est content de son travail, mais notre métier ne vaut rien dans cet endroit, car tout le monde a d'anciennes maisons à 4 étages, et moi je n'en ai pas. Par conséquent, à quoi sert mon état de charron ?» Après avoir ainsi réfléchi, il partit du pays. En passant dans une forêt, il aperçut au milieu d'un fourré pareil à une caverne, à l'heure du coucher du soleil, une chamelle égarée de sa troupe et tourmentée par les douleurs de la parturition. Il prit la chamelle avec son petit et retourna vers sa demeure. Arrivé à la maison, il prit une corde et attacha la chamelle. Puis, prenant une hache tranchante, il alla dans un endroit de la montagne chercher des branches pour elle. Là, il coupa beaucoup de jeunes et tendres rejetons, les mit sur sa tête et les jeta devant la chamelle, qui les mangea peu à peu. Après cela, à force de manger des rejetons jour et nuit, la chamelle devint grasse. Le jeune chameau aussi devint grand chameau. Puis le charron tira toujours du lait de la chamelle et nourrit sa famille. Le charron attacha par affection une grosse clochette au cou du jeune chameau. Ensuite il pensa « Ah, à quoi bon d'autres travaux pénibles, puisque cet entretien d'une chamelle est devenu pour moi un bon moyen de nourrir ma famille, qu'ai-je donc besoin d'un autre métier ?» Après avoir ainsi réfléchi, il alla à la maison et dit à sa femme « Ma chère, si tu es de mon avis, voici une bonne affaire. Je prendrai un peu d'argent de quelques prêteurs et j'irai dans le pays de Gurdjara pour acheter de jeunes chameaux. Tu garderas ces deux-ci avec soin jusqu'à ce que je revienne avec une autre chamelle. » Ensuite il alla à un village du Gurdjara, acheta une chamelle et revint vers sa maison. Bref, il fit si bien qu'il réunit un grand nombre de chameaux et de jeunes chameaux. Puis, quand il eut formé un grand troupeau de chameaux, il eut un gardien. Il lui donna par an comme moyen de subsister un jeune chameau. En outre, il lui fit boire du lait jour et nuit. De cette façon, le charron, faisant continuellement le commerce des chamelles et des jeunes chameaux, vécut heureux. Mais les chameaux allaient pour paître dans un bocage de l'endroit. Après avoir mangé de tendres plantes rampantes tant qu'ils voulaient et bu de l'eau dans un grand étang, ils revenaient le soir à la maison tout doucement en jouant, et le premier chameau, par excès d'orgueil, venait derrière les rejoindre. Alors les jeunes chameaux dirent « Ah, ce sourd chameau reste derrière comme s'il était égaré du troupeau et vient en faisant sonner sa cloche. S'il tombe dans la contrée de quelque méchant animal, il trouvera assurément la mort. » Or, tandis qu'il pénétrait dans la forêt, un lion entendit le son de la cloche et vint. Comme il regardait, il vit le troupeau de chamelles et de chameaux qui marchaient. Mais pendant qu'un restait derrière, jouant et mangeant des plantes rampantes, les autres chameaux, après avoir bu de l'eau, allèrent à leur maison. Lorsque le chameau sortit de la forêt et regarda les points de l'espace, il ne vit et ne connut aucun chemin. Égaré du troupeau, il parcourut tout doucement une petite distance en faisant beaucoup de bruit. Pendant ce temps, le lion, qui suivait le bruit qu'il faisait, s'avança, sortit de la forêt et s'arrêta devant. Quand le chameau arriva près de lui, le lion tira la langue, le saisit à la gorge et le tua. Voilà pourquoi je dis: celui qui par orgueil ne suit pas le conseil donné par des gens de bien trouve promptement sa perte, comme le chameau à la cloche. Mais après avoir entendu cela, Le crocodile dit « Mon cher, les hommes savants dans l'écriture appellent l'amitié sept pas faits ensemble. Et touchant l'amitié, je vais dire quelque chose. Écoute-le. Aux hommes qui donnent des conseils et sont bienveillants, il n'arrive de malheur ni dans l'autre monde, ni dans celui-ci. Ainsi, quoique j'aie été ingrat, fais-moi absolument la grâce de me donner un conseil. » Et l'on dit, « Celui qui est bon envers ceux qui lui font du bien, quel mérite a-t-il dans sa bonté? Celui qui est bon envers ceux qui lui font du mal, celui-là est appelé bon par les gens de bien. » Après que le singe eut entendu cela, il dit « Mon cher, si c'est ainsi, va donc là et combats avec lui. » Et l'on dit « Tué, tu obtiendras le ciel, vivant, une maison et la gloire. Si tu combats, il y aura pour toi deux très grands avantages. Devant celui qui est très puissant, qu'il se prosterne. Avec le brave, qu'il ait recours à la discorde. Au faible, qu'il fasse un petit présent. Contre celui qui est aussi fort que lui, qu'il emploie la force. »
« Comment cela ? » dit le crocodile. Le singe dit. Le chacal et l'éléphant mort. Il y avait dans un endroit d'une forêt un chacal nommé Mahatcha Turaka. Il trouva un jour dans la forêt un éléphant mort de lui-même. Il tourna tout autour de lui, mais il ne put fendre sa peau dure. Pendant ce temps, un lion courant çà et là vint en ce lieu même. Quand le chacal le vit venir, il mit à terre le cercle de sa touffe de cheveux, joignit les deux mains et dit humblement « Seigneur, je suis ici votre porte-massue et je garde cet éléphant pour vous. Que sa seigneurie le mange donc ?» Le lion, lorsqu'il le vit incliné, dit
« Hé, je ne mange jamais une bête tuée par un autre !»
Et l'on dit « Dans la forêt même, les lions qui se nourrissent de la chair des animaux ne mangent pas d'herbe quand ils ont faim. Ainsi les gens bien nés, accablés par l'infortune, ne s'écartent pas du chemin de la morale. Par conséquent, je te gratifie de cet éléphant. »
Lorsque le chacal entendit cela, il dit avec joie « Cela est convenable à un maître envers ses serviteurs, car on dit « Même dans la dernière condition, celui qui est grand n'abandonne pas les qualités de maître. Grâce à sa pureté, le coquillage ne perd pas sa blancheur, quand même il tombe du bec du paon. » Mais après que le lion fut parti, vint un tigre. Lorsque le chacal le vit, il pensa « Ah, j'ai pourtant éloigné un méchant en me prosternant. Comment donc maintenant éloignerai-je celui-ci? C'est sûrement un brave. Je n'en viendrai certainement pas à bout sans la discorde. Car on dit, là où il n'est pas possible de faire usage de la conciliation ni des présents, il faut employer la discorde, car elle produit la soumission. De plus, celui même qui possède toutes les qualités est enchaîné au moyen de la désunion. Et l'on dit, renfermée, cachée, bien ronde et très belle, la perle même, quand elle est percée, peut être attachée. » Après avoir ainsi réfléchi, il s'avança vers le tigre, le cou relevé fièrement, et dit avec empressement « Mon oncle, comment viens-tu ici te jeter dans la gueule de la mort? Car cet éléphant a été tué par un lion, et celui-ci, après m'en avoir établi gardien, est allé à la rivière pour se baigner. Et en partant, il m'a donné cet ordre. Si un tigre vient ici,
Tu m'en informeras avec le plus grand secret, car il faut que je purge cette forêt de tigres, parce que jadis un tigre a mangé dans un lieu désert un éléphant tué par moi et en a fait un reste. Depuis ce jour, je suis en colère contre les tigres. »
Lorsque le tigre entendit cela, il fut effrayé et dit au chacal :
« Eh, mon neveu, fais-moi présent de la vie. Ainsi, quand même il reviendrait ici dans longtemps, ne lui donne aucune nouvelle de moi. »
Après avoir ainsi parlé, il s'enfuit promptement. Mais quand le tigre fut parti, arriva là un léopard. Lorsque le chacal le vit, il pensa : « Ce léopard a des dents solides. Je vais donc faire en sorte que ce soit lui qui fende la peau de cet éléphant. » Après qu'il eut pris cette résolution, il lui dit aussi :
« Eh, mon neveu, pourquoi ne t'ai-je pas vu depuis très longtemps ?
Et comment ? Tu parais affamé. Ainsi tu es mon hôte. Voici un éléphant tué par un lion qui m'en a établi gardien. Mais cependant, tandis que le lion ne vient pas, mange de la chair de cet éléphant. Rassasie-toi et va-t'en bien vite. »
Mon oncle, répondit le léopard, si c'est ainsi, je n'ai que faire de manger de la chair, car l'homme qui vit voit des centaines de bonheurs. Et l'on dit, la nourriture que l'on peut avaler, qui se digère une fois avalée, et qui est salutaire quand elle est digérée, voilà ce que doit manger celui qui désire le bien-être. On ne mange donc absolument que ce qui se digère. Par conséquent, je m'en irai d'ici.
Hé, poltron, dit le chacal, aie confiance et mange. Je t'annoncerai la venue du lion alors même qu'il sera encore loin.
Après que cela fut fait, quand le chacal vit la peau fendue par le léopard, il dit :
Hé, mon neveu, va-t'en, va-t'en, voici le lion qui vient.
Lorsque le léopard entendit cela, il se sauva au loin. Mais pendant que le chacal, au moyen de l'ouverture faite par le léopard, mangeait un peu de viande, vint un autre chacal très furieux. Quand le chacal vit cet animal de même espèce que lui et d'une force égale à la sienne, il récita ce shloka : devant celui qui est très puissant, qu'il se prosterne, avec le brave, qu'il ait recours à la discorde, au faible, qu'il fasse un petit présent, contre celui qui est aussi fort que lui, qu'il emploie la force. Il marcha à sa rencontre, le déchira avec ses dents, le mit en fuite, et lui-même mangea longtemps avec plaisir la chair de l'éléphant. Ainsi, toi aussi, au moyen d'une bataille, sois vainqueur de cet ennemi qui est de ton espèce et mets-le en fuite. Sinon, plus tard, toi-même tu périras par lui dès qu'il aura pris racine. Car on dit, il faut attendre du produit chez les vaches, il faut attendre des austérités religieuses chez le brahmane, il faut attendre de la légèreté chez les femmes, de son espèce il faut attendre du danger. Et en outre, de bons aliments variés, les femmes de la ville nonchalante, le pays étranger n'a qu'un défaut, c'est qu'on y est hostile à son espèce.
« Comment cela ? » dit le crocodile.
Le singe raconta : « Le chien qui alla en pays étranger. » Il y avait dans un endroit un chien nommé Chitranga. Là survint une longue famine. Par suite du manque de nourriture, les chiens et autres animaux commencèrent à perdre leur famille. Or, Chitranga, dont le gosier était amaigri par la faim, s'en alla par crainte de la famine en pays étranger, et là, dans une ville, il entrait chaque jour dans la maison d'un chef de famille grâce à la négligence de la maîtresse du logis, mangeait divers mets et se rassasiait au mieux. Mais dès qu'il était sorti de cette maison, d'autres chiens insolents l'entouraient de tous côtés et lui déchiraient tout le corps avec leurs dents. Ensuite il réfléchit. Ah ! Mieux vaut le pays natal où même pendant la famine on vit heureux et où personne ne vous fait la guerre. Aussi je m'en vais dans ma ville. Après avoir ainsi réfléchi, il retourna vers sa demeure. Mais lorsqu'il fut revenu du pays étranger, tous ses parents lui demandèrent
« Chitranga, raconte-nous des nouvelles du pays étranger. Comment est le pays? Comment le monde s'y conduit-il? Quelle est la nourriture et quelle profession exerce-t-on là ?»
Il répondit « Comment décrire la nature du pays étranger? De bons aliments variés, les femmes de la ville nonchalantes. Le pays étranger n'a qu'un défaut, c'est qu'on y est hostile à son espèce. » Le crocodile, après avoir entendu le conseil du singe, fut décidé à mourir. Il prit congé du singe et alla à sa demeure. Et là, il fit la guerre avec le voleur qui était entré dans sa maison, le tua avec l'appui de sa grande force, reprit sa demeure et vécut longtemps heureux. On dit ceci avec raison. La prospérité que l'on a acquise sans avoir fait acte de courage, à quoi sert-elle, quand même on en peut bien jouir? Le vieux taureau même mange l'herbe qui lui vient du destin.